Donc, rebonjour officiellement. Ça fait toujours, toujours, toujours vraiment plaisir d'être ici. À chaque fois que je visite une autre église, un autre réseau, je suis toujours super excité. Il y a 2 semaines, j'étais à Sherbrooke. La semaine passée, j'étais à Magog. Aujourd'hui, j'étais à Montréal. C'est vraiment cool. Dieu multiplie nos églises, puis ça, c'est vraiment le fun. Une chose qui m'a marqué, la première fois que je suis rentré dans une des églises du réseau Église 21, puis c'est en même temps la même chose que je remarque aujourd'hui, c'est la diversité des gens. Fait que la première fois, j'étais à Sherbrooke, fait qu'il y a moins de diversité multiculturelle, mais quand même, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens différents qui ne se sentaient pas jugés. Fait qu'il y avait des gens qui étaient chrétiens depuis longtemps que je connaissais, des nouveaux chrétiens. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas du tout chrétiens, qui rentraient dans l'église. Puis c'était beau de voir comment est-ce que les gens ne se sentaient pas comme s'il fallait qu'ils mettent un masque. Comme je rentre dans une église, il faut que j'aille l'air de quelqu'un qui est bon. Les gens rentraient, puis c'était juste, je sentais à l'aise de pouvoir évoluer à leur rythme, apprendre à explorer leur spiritualité à leur rythme. Puis encore aujourd'hui, j'arrive ici, puis là, je vois plein de gens différents partout. Il y a du monde anglais, français, du monde qui sont de comme plein de nationalités différentes. Puis peu importe qui vous êtes ce matin, le message s'adresse à vous. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a un message dans la Bible qui s'adresse à tout le monde sur la planète. Et puis que vous soyez justement chrétien depuis longtemps, que vous soyez un nouveau chrétien ou pas chrétien du tout, même si vous n'êtes même pas sûr si Dieu existe, le message de ce matin s'adresse à vous, spécifiquement. Puis même que, je vais dire ça comme ça, ironiquement, le message de ce matin s'adresse à vous, si vous n'êtes pas chrétien. Je dis ironiquement parce que le texte qu'on va voir ce matin, c'est un texte entre un homme extrêmement religieux, un homme qui s'appelle Nicodème, et puis Jésus. Donc Jésus, on croit que c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme, on croit qu'il y a un Dieu qui existe, et puis que ce Dieu-là existe en 3 personnes, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis la Bible là, nous parle que Jésus, c'est Dieu le Fils, donc Dieu qui est devenu un homme, et puis qui est venu sur la terre pour nous révéler c'est qui cet être supérieur-là, c'est qui ce Dieu-là. Et puis, donc là c'est Dieu, c'est Jésus qui parle à un homme ultra-religieux. Jésus l'appelle, son nom c'est Nicodème, et puis c'est un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la loi, quelqu'un qui étudie la loi de Dieu en profondeur toute sa vie. C'est quelqu'un qui passe sa vie à mettre toute son énergie à obéir la loi parfaitement, du mieux qu'il peut. Puis en plus, il enseigne les gens autour de lui à obéir la loi. Fait que là, moi je suis là ce matin, puis je dis, ben ça s'adresse à vous aussi. Puis là vous êtes, ah, je suis même pas sûr que Dieu existe, c'est bizarre, pourquoi ça s'adresse à moi? En fait, oui, ça s'adresse à vous. Je vais vous dire pourquoi. Si vous dites, moi je crois pas à Dieu, probablement si vous dites, c'est moi je crois en ce que je peux toucher, voir, ce que je peux sentir, ce que je peux mesurer et calculer. Ça je le vois, je le touche, ça je crois à ça. S'il y a plus que ça, je suis pas certain. Mais en même temps, peu importe qui vous êtes, vient toujours un moment dans notre vie où est-ce que on fait face à un événement qui est inévitable. Quand on perd quelqu'un dans notre famille, quand on perd un proche, quand quelqu'un meurt, quand on fait face à la mort, il y a quelque chose dans nous qui dit, il doit y avoir plus que ça. Puis soudainement, on réalise que cette pensée de l'éternité-là qui est gravée sur notre cœur, peu importe ce qu'on a dit. Puis quand on va dans un service funéraire, il y a plein de gens qui disent ça ou plein de gens qu'on entend dire. C'est les mêmes paroles qui reviennent constamment. Qu'est-ce que les gens disent dans un service funéraire? Comment? Dans un monde meilleur. Ils ne souffrent plus, ils rentrent dans une meilleure place. C'est ça? Puis souvent aussi, on va dire, ben c'était une bonne personne. C'est une bonne personne, il est rendu dans une meilleure place. Fait que peu importe notre discours, peu importe ce qu'on dit, quand on fait face à une situation comme ça, tout le monde en surprend à dire « Ah, il y a plus que ça. » Puis on dit ces 2 petites phrases-là qui sont lourdes de sens. Il y a une grosse, grosse philosophie derrière ça. Même si on n'y a pas réfléchi, il y a une méga philosophie derrière ça qui dit beaucoup de choses. C'est une bonne personne dans une meilleure place. Ça veut dire que, je crois qu'il n'y a pas juste que ce qui est ici, ce que je peux toucher, voir, mesurer, calculer. Il y a plus que ça. On est en train de dire « Ben, il y a une meilleure place. » Puis s'il y a une meilleure place, il y a probablement aussi une pire place. Puis on est en train de dire aussi, c'est une bonne personne dans une meilleure place. On est en train de dire, ben tu peux être une bonne personne puis aller dans une meilleure place, ou tu peux être une mauvaise personne puis aller dans une pire place. Puis le problème avec ça, c'est que quand on dit cette phrase-là, c'est comme si on assume que c'est nous autres qui décident qui va où. C'est comme si c'est nous autres qui décident, toi, je juge selon mes critères à moi que tu es assez une bonne personne pour te rendre dans la bonne place. Mais le problème, c'est qu'ici, on est combien? On est 40, 40, 50? On a probablement 40 à 50 différentes réponses de c'est quoi une bonne personne. Quand je dis ça, je parle, c'est où est-ce qu'on met la ligne? Donc, il y a des critères généraux, on peut s'entendre sur quelqu'un qui fait des bonnes actions, c'est une bonne personne, mais est où la ligne? C'est à partir de où est-ce que je tranche? Alors, toi, tu es une bonne personne, tu vas à la bonne place. Toi, tu vas pas là. Puis, si vous êtes quelqu'un qui a grandi dans une famille qui a des bonnes valeurs, probablement, il y a deux options qui s'offrent à vous. Probablement que vous voyez juste que tout le monde est bon, ou que vous retournez de bord, puis vous regardez la société, et vous dites, mon Dieu, le monde est mauvais. Ou le contraire, vous avez grandi dans une famille où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de méchanceté. Peut-être que vous broyez juste du noir, ou que vous retournez de bord, puis vous dites, ah, il y a plein de bonnes personnes dans la société. Ou sinon, un exemple qui est quand même bon, Adolf Hitler. Adolf Hitler se considérait lui-même comme une bonne personne. Dans sa tête, il est en train de rendre service à l'humanité. Puis pourtant, aujourd'hui, la majorité des gens vont dire comme, non, Adolf, c'est peut-être pas une bonne personne. Je suis comme, il est peut-être pas dans un meilleur endroit. Fait que, là où je relis les deux choses ensemble, dans le fond, là où je dis, Dieu s'adresse à quelqu'un qui est religieux, peut-être que vous n'êtes pas religieux, là où ça se rejoint, c'est que quelqu'un qui est religieux, sa bonne nouvelle, la raison, ce qui le motive à vivre, c'est, je vais tellement obéir à Dieu parfaitement que même que je meurs, bien, je vais être accepté par Dieu. Si je peux assez travailler fort à obéir sa loi, Dieu va m'accepter. Puis quelqu'un qui dit, bien, je ne crois pas tant en Dieu, dans le fond, sa philosophie en arrière, c'est tu peux être une bonne personne puis te rendre à la bonne place. Donc la philosophie est quand même la même. Puis quand que je parle avec, je parle souvent avec des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, puis aussitôt que je leur dis que je suis chrétien, c'est comme s'ils se sentent obligés de défendre leur point de vue. Donc, comme, ah, moi, je crois pas en Dieu. Moi, je crois pas en Dieu. Je crois pas du tout en Dieu. Puis là, comme après deux secondes, puis là, je suis comme, ah, c'est correct, tu sais, t'as le droit. Puis tout après, il faut qu'ils se mettent à dire en quoi qu'ils croient. Puis là, ils me disent, la plupart du temps, comme 95% du temps, je crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a une force supérieure. Je crois qu'il y a quelque chose au-dessus. Dieu, je crois pas, mais je crois qu'il y a une énergie. Il y a une énergie supérieure au-dessus de toute chose. Ça, je crois à ça. Puis ce qui est drôle, c'est que quand un chrétien dit qu'on croit en Dieu, on n'est pas en train de dire que c'est son petit nom. C'est pas comme Monsieur Dieu. Dieu, c'est un titre qu'on donne à un être supérieur. Dieu, c'est un titre qu'on donne qui dit qu'il y a une énergie au-dessus de toute chose. Donc, principalement, on dit la même chose. Sauf que nous, en tant que chrétiens, on croit que Dieu s'est révélé à travers la Bible. Puis que Dieu se révèle encore à travers la Bible. Donc, on prend la Bible pour chercher c'est qui ce Dieu-là. Donc, si c'est vrai qu'il y a un meilleur endroit, puis si c'est vrai qu'il y a un pire endroit, puis si c'est vrai que c'est pas nous qui tranchons qui va où, puis si c'est vrai qu'il y a une énergie supérieure, probablement que ça serait bon de demander c'est quoi ces critères à cette énergie supérieure-là, à cette force supérieure-là? C'est quoi ces critères pour aller dans la bonne place ou dans la pire place? Fait que ce matin, c'est exactement de ça qui est question. C'est Jésus qui parle à un homme religieux, puis Jésus parle du royaume de Dieu. Jésus parle du royaume de Dieu, puis Jésus dit que le royaume de Dieu, c'est ça le meilleur endroit, c'est ça la meilleure place. Puis la Bible nous parle du royaume de Dieu comme la meilleure place, pas parce que c'est beau, ça sent bon, puis il y a des bonnes personnes, même si c'est vrai. Mais la Bible nous dit que le meilleur endroit, c'est un meilleur endroit parce que cet être supérieur-là, cette force supérieure-là, est là. Puis qu'un jour, on va être en sa présence. Si on va dans cette place-là, on va être en sa présence. Dans la présence de l'énergie ultime. La Bible nous parle que cette énergie-là, cette force supérieure-là, ce Dieu-là, c'est la source de la vie. C'est la source de l'amour, c'est la source de la lumière, c'est la source de la joie. Que plus on est en présence de Dieu, plus qu'on a ces choses-là, plus qu'on s'éloigne de Dieu, moins qu'on a ces choses-là. Donc, la meilleure place, là, le royaume de Dieu, c'est là où est-ce que Dieu est, puis que si on va là, on est en présence de tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, là. C'est une bonne place. Fait que, sans plus tarder, on va commencer à lire. Là, je vous avertis tout de suite, c'est quand même un gros texte. J'ai coupé le plus que je pouvais, garder l'essentiel. Fait qu'au début, on va avoir beaucoup d'informations, puis après ça, on va faire un petit survol là-dessus, puis on va clore ensemble. Donc, or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, cet homme-là, Nicodème, il arrive vers Jésus, puis il commence en l'appelant maître. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'habituellement, c'est les autres qui appellent Nicodème maître. Donc, il arrive là avec une attitude humble, puis il va voir Jésus, il l'appelle maître, et puis il dit, « On sait que tu es un enseignant qui vient de Dieu. » Puis à partir du moment où est-ce qu'il déclare ça, Jésus prend, il saisit l'occasion, puis il se met à enseigner l'enseignement le plus important que Nicodème pourra jamais entendre de sa vie. Jésus répond, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Fait que là, Jésus, comme right off the bat, en commençant, il commence super sec, puis il dit, « OK, Nicodème, tu es un homme religieux, je te dis tout de suite en partant, à moins de naître de nouveau, il n'y a personne qui peut voir le meilleur endroit. » Comme même toi, Nicodème. Là, on parle de Nicodème, le pharisien, un homme qui passe sa vie à essayer d'étudier la loi parfaitement, de la mettre en pratique parfaitement. C'est un chef des Juifs. Plus tard, Jésus l'appelle l'enseignant d'Israël. C'est comme... Nicodème, c'est comme le Chuck Norris des pharisiens. Là. On s'entend, là? C'est comme... S'il y a quelqu'un qui... Si c'est vrai qu'on peut être assez bon pour aller dans le meilleur endroit, je veux dire, Nicodème, il faut qu'il se qualifie, là. Si lui ne se qualifie pas, qui se qualifie? Puis là, Jésus commence, puis il dit non. Il dit, à moins d'être de nouveau, il n'y a personne qui peut voir le royaume de Dieu. Personne. Là, Nicodème, il dit, comment un homme peut-il naître tant qu'il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Fait que là, Nicodème, il est pas stupide, là. C'est un homme intelligent. Fait qu'il croit, il pense pas vraiment qu'il peut entrer dans le ventre de sa mère et renaître, OK? Jésus, quand il dit « naître de nouveau », c'est pas un concept nouveau. Là. C'est pas une phrase qu'il vient juste d'inventer. Pour un juif du Moyen-Orient à l'époque de Jésus, c'est vraiment courant. C'est une expression courante. Par exemple, quand un non-juif veut se convertir au judaïsme, donc le judaïsme, la religion des juifs. Fait que s'il y a quelqu'un qui n'est pas juif, il veut suivre la religion des juifs, ce qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il se fasse baptiser, il fallait qu'il se fasse submerger dans l'eau, et puis l'eau signifie la pureté. Donc c'était, avant tu es impur, on te plonge dans l'eau, maintenant tu es rendu pur, maintenant tu fais partie, tu peux maintenant faire partie de la famille de Dieu, tu peux maintenant te joindre au judaïsme. Et puis quand ça arrivait, on disait, ben t'es né de nouveau, t'as une nouvelle naissance, ta vie comme qui était avant ne sera plus jamais pareille, maintenant t'as une nouvelle vie. Quand un homme se faisait circoncire, donc ça, c'est quand on chope le petit bout, ta vie ne sera plus jamais pareille, man. T'as une nouvelle vie, t'es né de nouveau. Quand tu avais un nouveau statut légal, donc mariage, nouvelle citoyenneté, adoption, toutes ces choses-là, nouvelle naissance, t'es né de nouveau. Donc, c'est tout. À chaque fois que tu as une nouvelle étape importante de ta vie, t'es né de nouveau. Puis là, Jésus parle à Nicodème, qui est un vieil homme, puis il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis là, Nicodème, il dit à Jésus, il dit, Jésus, moi, je suis un vieil homme. Comme je suis une personne âgée, toutes les étapes de nouvelle vie, de naître de nouveau, je les ai toutes faites. J'en ai plus. Il n'y a plus de nouvelle naissance qui m'est disponible. Tu veux que je fasse quoi? Que je renaisse puis je recommence? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis là, Jésus continue. Jésus répond, en vérité, c'est vrai, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, Jésus, c'est vraiment cool. Jésus sait à qui il parle. Jésus parle à un homme extrêmement religieux, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Ce que Jésus fait, il se met à citer la parole de Dieu. C'est les paroles du prophète Ézéchiel. Donc, nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe à ce moment-ci, puis c'est normal. Je vais continuer de lire, puis on va revenir sur ce texte plus tard. Mais ce qui se passe là, c'est que Jésus vient juste de dire à Nicodème, « Nicodème, il n'y a personne qui est assez bon pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu veux aller dans le meilleur endroit, Tu as besoin de ça. Il faut que tu naisses d'eau d'esprit. Nicodème reprit la parole et dit, comment cela peut se faire? Si ça prend ça pour avoir ça, je le veux. Comment ça se peut? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. C'est toi qui es supposé diriger le peuple de Dieu vers Dieu, puis tu ne sais pas comment faire ça. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Fait que là, Nicodème, il dit, comment cela peut-il se faire? Je le veux. Puis Jésus ne répond pas tout de suite à sa question, mais il dit, tu ne sais pas ça. Parce qu'il dit, c'est normal que tu ne sais pas ça, parce que toi, Nicodème, tu es né sur la terre, tu es né de parents humains. Tout ce que tu connais, c'est ce que tu peux voir, toucher, sentir, mesurer, calculer. Tu ne peux pas rendre témoignage d'un royaume qui est céleste, d'un royaume qui est spirituel. Parce que tu n'es jamais venu de là. Tu ne le sais pas, c'est normal. La seule personne qui peut rendre témoignage de ça, c'est la personne qui vient de là. Le Fils de l'homme, le Sauveur. Donc, pour un Juif, Fils de l'homme, Messie, Sauveur, ils entendent toutes la même chose. Grossièrement, ce qu'ils entendent, c'est le Sauveur. Donc, Messie, ça veut dire celui qui est oint par l'Éternel, mais là, comme on ne rentrera pas dans tous les détails. Là, règle générale, ils entendent, c'est le Sauveur. Fils de l'homme, Sauveur, Messie, même chose. Et puis là, Jésus, il dit, le Sauveur, c'est le seul qui peut parler du royaume de Dieu, parce que c'est le seul qui vient de là. Puis là, de manière indirecte, Jésus affirme que c'est lui le Sauveur. Parce qu'après ça, il dit, moi, quand je vais vous parler des réalités célestes, vous ne croirez pas. Donc, il ne dit pas tout de suite à Nicodème, c'est moi le Sauveur, mais de manière indirecte, c'est assez clair, Jésus dit comme, oui, c'est moi le Sauveur. Jésus continue, puis là, il donne la réponse. La réponse à Nicodème. Comment je peux naître d'eau d'esprit pour pouvoir avoir accès au meilleur endroit? Jésus répond encore une fois en citant les saintes Écritures. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Encore une fois, on ne comprend pas parce que Jésus a encore cité un texte, puis on va le voir tantôt, ce texte-là. Mais ça, c'est la réponse. Ça, c'est le moyen. Tu veux naître d'eau d'esprit, c'est ça que ça te prend. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les Juifs, à l'époque de Jésus, attendaient un Sauveur qui était promis par Dieu depuis longtemps à travers la Bible. Les Juifs étaient persuadés que le Sauveur allait les sauver d'une emprise qui était physique, tangible, réelle. Ce que je peux toucher et voir. Puis à l'époque de Jésus, l'Empire romain dominait sur les Juifs. Fait que les Juifs étaient convaincus, même que quand le Messie va arriver, quand le Sauveur va arriver, le Sauveur va bâtir un royaume sur terre et puis il va nous délivrer des méchants Romains. Et puis maintenant, on va devenir la puissance mondiale. Puis là, Jésus, il est en train d'un peu scraper le plan à Nicodème. Il est comme, non, moi je te parle d'un royaume spirituel. Puis Nicodème, je suis pas venu pour condamner les Romains. Je suis venu pour sauver le monde. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Fait que voici ce qui s'est passé. Nicodème va voir Jésus. Nicodème y admet, Jésus est un enseignant qui vient de Dieu. Jésus se met à enseigner l'enseignement le plus important que Nicodème pourra jamais entendre. Personne ne peut être assez bon pour voir le royaume de Dieu. La solution, il faut naître d'eau et d'esprit. Le seul qui a déjà ces critères-là, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Et puis le moyen pour pouvoir naître d'eau et d'esprit, c'est le serpent de bronze. Fait que là, il y a deux histoires. deux histoires que Jésus a citées. La première, c'est naître d'eau d'esprit, puis l'autre, c'est l'histoire du serpent dans le désert. Naître d'eau d'esprit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Jésus parle, il cite les paroles du prophète Ézéchiel. Et puis, quand Jésus dit ça, Nicodème comprend. Nicodème a un bagage d'informations qui lui vient derrière la tête. L'histoire de naître d'eau d'esprit, ça se passe dans un contexte assez particulier. C'est un contexte où est-ce que le peuple de Dieu, les Juifs, se détournaient continuellement de Dieu, continuellement. Donc, tantôt, je disais que Dieu, c'est la source ultime de la vie, c'est tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Et puis, le plan de Dieu, c'est vraiment que les êtres humains soient près de lui, en sa présence, parce qu'il est tout ce qu'il y a de bon. Et puis, le peuple de Dieu se détourne de Dieu, constamment. Constamment. Dieu est patient, Dieu les laisse aller, et puis à un moment donné, les hommes vont juste trop loin, comme vraiment trop loin. Ils se mettent à commettre des choses comme vraiment, vraiment dégueulasses. À un point tel que, on ne le lira pas, là, mais c'est dans le texte un petit peu plus haut, Dieu va même dire, il va même comparer leurs mauvaises actions. Il dit, vos mauvaises actions sont tellement rendues horribles à mes yeux que c'est... Je suis désolé, oreille sensible. Il dit, c'est comme si vous aviez été menstrué sur mes choses. C'est à ce point-là dégueulasse. Et puis, vous êtes en train de souiller toutes mes choses, puis vous êtes en train de vous tuer parce que vous vous éloignez de la vie. Et puis là, Dieu envoie un jugement sur le peuple, puis c'est un jugement qui est rempli d'amour. C'est un jugement qui est dur. Dieu il dit par le prophète Ézéchiel, il dit, je vais envoyer plein d'armées, de plein de nations qui vont venir vous détruire. Votre nation ne sera plus une nation, vous allez être démolie, vous allez être détruit. Vous allez être amené en esclavage ailleurs. Et puis là, le texte va commencer là. Mais c'est un jugement qui est dur, en même temps, c'est un jugement qui est rempli d'amour, parce que Dieu, c'est un bon père, un bon papa qui aime ses enfants, puis qui sait que ses enfants courent à leur perte. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. C'est comme un père, si vous êtes parent, vous avez des enfants, si vous avez déjà vu votre enfant se mettre à courir vers la rue, puis que vous avez entendu au loin le bruit d'un crissement de pneus, donc un char qui braye bien sec, sûrement que votre cœur est arrêté, il a fait 3-4 tours, vous êtes allé voir votre enfant pour voir s'il était mort. Puis s'il n'était pas mort, probablement que vous avez crié après, probablement que vous l'avez chicané sévèrement, parce que vous ne voulez pas qu'il aille là, vous ne voulez pas qu'il aille vers la rue, vous ne voulez pas que votre enfant meure, parce que vous l'aimez. C'est exactement ça qui arrive avec Dieu, puis Dieu il dit, je vais, en ce moment, si vous continuez comme ça, c'est fini. Donc, j'envoie cette nation-là. Puis après ça, Ézéchiel continue en disant, « Mais je ne veux pas vous laisser éparpillés comme ça, pour toujours. Je vous arracherai aux nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai sur votre territoire. » Puis là, on disait tantôt que Jésus parlait de naître d'eau et d'esprit. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Ça, c'est des promesses de Dieu, remplies d'amour pour son peuple. Et puis là, Jésus dit ces promesses-là, il rappelle ces promesses-là à Nicodème. Nicodème, il entend ça, puis il dit, c'est pour maintenant. Les promesses que Dieu a faites il y a des centaines d'années, c'est pour maintenant. Je peux naître d'eau d'esprit, je vais pouvoir être purifié d'eau pure, je vais pouvoir être déclaré pur par Dieu, je vais pouvoir avoir un nouveau cœur, avoir des nouveaux désirs, je vais pouvoir avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'être supérieur, veut mettre son esprit en dedans de moi. Comment cela peut-il se faire? Je le veux. Si ça me prend ça pour le meilleur endroit, comme je le veux. Et puis là, Jésus répond à ça par une autre histoire, l'histoire du serpent dans le désert. Jésus dit, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis là, ça commence à être vraiment intéressant. Ça aussi, ça arrive dans un contexte particulier, pas mal le même contexte en fait, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Il y a longtemps, le peuple juif était en esclavage en Égypte. Pris en esclavage en Égypte, les Égyptiens détestaient les Juifs et puis les traitaient durement. Dieu ne veut pas ça, évidemment. Donc, ce que Dieu fait, Dieu envoie Moïse pour aller délivrer le peuple juif de l'esclavage, pour les amener dans un meilleur endroit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit, je vous envoie Moïse pour vous délivrer de l'esclavage, pour vous amener dans un meilleur endroit. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Sauf que, il y a une pogne. Pour partir de l'esclavage puis se rendre au meilleur endroit, il faut traverser un désert. Puis la ride est rough. Et puis, à travers tout le trajet, comme Dieu, c'est vraiment un bon Dieu, c'est un bon Père, puis il prend soin du peuple, il leur donne à boire, il leur donne à manger. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, Dieu les délivre toujours puissamment, il y a toujours des miracles extraordinaires qui arrivent. Mais là, en chemin, ils sont tannés, ils ont chaud, ils ont soif, ils sont tannés de manger la même nourriture, et puis soudainement, ils oublient les promesses de Dieu. Ils oublient comment est-ce que c'était dur avant, puis comment est-ce que Dieu leur promet de les amener dans un bon endroit. Leurs yeux se mettent à se tourner sur eux-mêmes, et puis là, eux ne sont pas contents parce qu'eux, ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent maintenant. Et puis là, ils se mettent à chialer contre Dieu puis contre Moïse. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors, après toute cette patience-là de Dieu, Dieu envoya des serpents venimeux contre le peuple. Des milliers de serpents venimeux. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Moïse, on a péché. » Car nous avons parlé contre toi et contre l'Éternel. Contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Fait que ça, c'est la réponse, la solution à comment naître d'eau d'esprit. C'est beau? Vous avez compris? On passe à autre chose? C'est vraiment un texte hot puis mystérieux. Vraiment, vraiment beaucoup de choses étranges. Une des choses qui ressort de ce texte-là, c'est que, premièrement, c'est ça, le peuple désobéit à Dieu, et puis à cause que le peuple désobéit, Dieu envoie une malédiction. Quand le peuple se rend compte qu'ils sont en train de mourir, ils vont voir Moïse puis ils demandent à Dieu qu'il nous sauve. Puis ça, c'est super intéressant, la réponse de Dieu. Dieu, c'est Dieu, c'est l'être supérieur, c'est l'énergie ultime. Il peut faire ce qu'il veut. C'est vrai? Est-ce que Dieu aurait pu juste claquer les doigts et tout le monde est sauvé? Mais Dieu a choisi de ne pas faire ça. De la même manière que vous avez choisi de pécher, de la même manière que vous avez choisi de vous détourner de moi, de la même manière, je vais vous donner le choix. Vous voulez sauver, je fournis tout ce qu'il faut. Le moyen est là, vous avez le choix de continuer de mourir ou de regarder le serpent puis vivre. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme des robots, Dieu nous a fait avec le libre arbitre, on a le choix d'obéir ou de désobéir. On a le choix de mourir ou de vivre. Super intéressant. L'autre chose là-dedans, c'est que le moyen que Dieu utilise pour sauver le peuple, c'est un serpent. Puis ça, c'est vraiment bizarre, parce que depuis le début de la Bible, depuis la Genèse, on voit dans la Genèse que le serpent, c'est le symbole de la malédiction. Vous irez lire la Genèse, on n'a pas le temps ce matin, mais... Il s'est passé quelque chose au début, et puis la Bible nous dit que le serpent, c'était l'animal le plus majestueux de toute la création. Et puis là, il s'est passé quelque chose, il y a eu une malédiction, et puis le serpent est passé de la créature majestueuse à l'animal qui va ramper dans la poussière. Puis depuis ce temps-là, dans la Bible, quand on parle du serpent, le serpent, c'est le symbole de la malédiction. Donc, quand le peuple fait quelque chose qui n'est pas bien, évidemment, Dieu envoie la malédiction, il envoie des milliers de serpents, ça fait du sens. C'est super logique, Dieu envoie la malédiction, c'est des serpents. Mais là, Dieu dit, bien, la manière que vous allez être sauvé, c'est aussi un serpent. Puis ça semble ne faire aucun sens. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Nicodème, quand que Jésus parle à Nicodème, Jésus lui-même se compare au serpent. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Comme Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est en train de se comparer, comme tantôt il a dit à Nicodème, il a dit, le seul qui est né d'eau et d'esprit, le seul qui a les critères pour entrer dans la meilleure place, il dit, c'est moi, c'est le Fils de l'homme. Il dit, moi, j'ai l'Esprit Saint, moi, je suis pur, moi, j'ai un bon cœur, moi, j'ai des bons désirs. Moi, je suis pur. Puis là, après ça, il dit, je me compare au serpent de la malédiction. Encore plus bizarre, OK? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Puis là, nous, on pense, il faut que quelqu'un soit élevé, ça, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Quand que tu travailles à quelque part et puis que tu es élevé dans la compagnie, tu as reçu une promotion, c'est bon. Ou quand on prend n'importe qui puis on l'élève, on le met sur un piédestal, c'est bon. Mais quand un juif entend, il faut qu'il soit élevé, il entend, il faut qu'il meure. Puis ça, c'est pas bon. Pourquoi ils entendent ça, je ne sais pas. J'ai pas fait toutes mes recherches là-dessus. Mais je sais que c'est ça qu'ils entendent. On va aller voir. Là, on est dans Jean 3, 14, OK? On va aller voir dans Jean 12, 34. Donc, c'est le même auteur, le même livre, le même Jésus qui parle au même peuple juif. Puis il dit la même chose. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Regardez la réponse des Juifs. Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Comme la loi nous a dit que le Sauveur, il allait vivre pour toujours. Puis toi, tu dis que le Sauveur, il faut qu'il meure. Est-ce que le Fils de l'homme, c'est vraiment le Sauveur? Comme c'est quoi que tu dis, Jésus, ça fait aucun sens. On t'entend, mais non, ça marche pas. Puis là, Jésus dit la même chose à Nicodème. Il dit, tu veux aller dans le meilleur endroit? C'est pas suffisant d'être une bonne personne. Il faut que tu naisses d'eau d'esprit. Comment cela peut-il se faire? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans le désert. Il faut que le Sauveur meure. Jésus est en train de dire à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau d'esprit. Il faut que tu sois purifié par Dieu. Il faut que tu reçoives, que tu reçoives l'Esprit Saint. Il faut que tu reçoives un nouveau cœur, des nouveaux désirs. C'est ça qu'il faut. Tu veux avoir ça? C'est ça que tu veux? Mais la seule manière que c'est possible, c'est si moi je perds ces choses-là. La seule façon que c'est possible que toi, tu sois déclaré pur, c'est si moi je deviens pur. La seule façon que tu peux ne plus être sous la malédiction, c'est si moi je deviens maudit, si moi je deviens le serpent de bronze. La seule manière que tu peux vivre, c'est si moi je meurs. La seule manière que toi, tu peux recevoir l'Esprit de Dieu en toi, c'est si l'Esprit de Dieu me quitte, moi, Jésus. La seule façon que toi, tu peux entrer dans le royaume de Dieu, c'est si moi, je suis rejeté de mon propre royaume. La solution pour que tu aies tout ça, c'est qu'il faut que moi je perde tout ça. Il faut que le Fils de l'homme meure. Puis il est en train de dire, Nicodème, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je ne suis pas venu pour condamner les méchants romains. Je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je suis venu sur cette terre-là pour être condamné à votre place. Je ne suis pas venu condamner le monde, je suis venu sauver le monde, je ne suis pas venu vous condamner, je suis venu être condamné à votre place, je suis venu prendre votre place, guys. Nicodème, la solution, ce n'est pas d'être une meilleure personne. Le fardeau que Nicodème se mettait sur ses épaules à lui, c'est « si je travaille assez fort, si je travaille assez fort, si j'obéis à Dieu là, de toutes mes forces, de toute mon énergie, de tout ce que j'ai, peut-être que Dieu va m'accepter. » Nicodème avait un fardeau énorme sur ses épaules. Puis Jésus dit « c'est pas suffisant d'être une bonne personne, Nicodème. » La solution, c'est pas d'être une meilleure personne. La solution, c'est que toi puis moi, on change de place. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse sauver le peuple de l'esclavage pour l'amener dans un meilleur endroit, de la même manière, Dieu envoie moi, Jésus, vers vous pour vous sauver de l'esclavage, pour vous amener dans un meilleur endroit. Le meilleur endroit, c'est le royaume de Dieu, c'est là où est-ce que Dieu est, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de cet être supérieur-là, cette énergie suprême. Le Fils de l'homme est venu pour ça, pour vous délivrer de l'esclavage, pour vous amener dans un meilleur endroit. Puis non, l'esclavage que je suis venu vous délivrer, ce n'est pas des Romains. Je vous parle d'un royaume spirituel. Vous êtes esclaves de vos mauvais désirs, guys. C'est Nicodème, les Juifs. L'esclavage que vous avez, c'est que vous êtes esclaves de vos mauvais désirs. Vous ne désirez pas ce qui est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est parfait, mais vous ne désirez pas ça. Vous, ce que vous désirez, c'est ce qui n'est pas bon. Vous avez un cœur qui est mauvais, qui vous pousse à vous éloigner de Dieu constamment. Puis plus que vous éloignez de Dieu, plus que vous mourrez. Jésus est en train de dire, moi, je suis venu sur cette terre-là pour une raison. C'est pour ça. Je suis venu mourir à votre place. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est débile comme nouvelle. Est-ce que vous êtes venu ici ce matin avec un fardeau sur vos épaules de dire « faut que je sois assez bon. » Peut-être que si je lis assez ma Bible, je vais être accepté. Peut-être que si je rentre assez tôt à l'église le dimanche matin pour faire des choses, pour brancher des fils, peut-être que Dieu va m'accepter. Peut-être que si je ne consomme pas de la porn cette semaine, que Dieu va m'accepter. Puis si je fais ça, ben, je suis barré de la liste. Mais Jésus est en train de dire non. Non, il n'y a aucune façon de faire ça. Ce qu'il faut, c'est que toi et moi, on change de place. Parce que la seule que les critères parfaits, c'est Jésus. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je vais finir dans très peu de temps. Au début, Jésus a dit à Nicodème en partant, il dit, c'est pas suffisant que tu sois une bonne personne. Puis le parallèle que Jésus fait avec l'histoire du serpent dans le désert, il dit, le peuple dans le désert, il a mal agi. Puis parce qu'il a désobéi, parce qu'il a agi contre Dieu, parce qu'il s'est détourné de Dieu, Dieu a envoyé la malédiction, puis ils ont été mordus. La solution pour vivre à eux, là, c'était pas de commencer à mieux agir. Il ne pouvait pas commencer à mieux agir pour être guéri. Comme, non, t'as mal agi, t'as été mordu, c'est fait. Le venin, il coule dans tes veines. C'est juste une question de temps. C'est une question de temps. T'es en train de mourir. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te racheter. Tu ne peux pas être une meilleure personne maintenant. Tu es mordu, c'est fait. C'est fini, final. De la même manière aujourd'hui, Nicodème. De la même manière aujourd'hui, nous. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a commis une action de mauvaise, tout le monde a été mordu. La malédiction coule dans nos veines. On est debout, ouais, mais on est en train de mourir. C'est une question de temps. Puis c'est pas vrai que si on agit mieux, on va plus être mordu. Non, c'est fait. La seule manière que la malédiction peut ne plus couler dans nos veines, c'est si la malédiction coule dans les veines de Jésus. Là, il y a quelques semaines, à Magog, Philippe Beaudoin, pasteur de Sherbrooke, il a fait une prêche. C'était, en gros, c'était la différence entre c'est quoi un fan, c'est quoi un disciple. Puis il disait, Jésus ne veut pas avoir des fans, Jésus veut avoir des disciples. La différence, c'est qu'un fan, ça, il va scander haut et fort Jésus. Ouais, Jésus, il va lever les bras, Jésus. Mais le disciple, un disciple dans le temps de Jésus, ça dormait avec son maître. Ça s'habitait chez son maître. Quand le maître mangeait, il mangeait. Quand le maître allait se coucher, il se couchait. Quand le maître allait chez lui, bien, les disciples allaient chez le maître. Toute leur vie tournait autour du maître. Puis Jésus est en train de dire, « Guys, je veux des disciples. Je veux pas des fans. » Ce que je veux, ce que Jésus veut, il dit, « Je veux que vous bâtissiez votre vie autour de moi. » Puis ça, c'est l'adoration en passant. Quand on bâtit notre vie autour de quelque chose, c'est qu'on est en train d'adorer cette chose-là ou cette personne-là. Puis Dieu, il dit, « Je vous ai créé, je vous ai conçu pour que vous bâtissiez votre vie autour de moi parce que moi seul, je suis la source ultime de la vie, de la joie, de l'amour, de la lumière. » Puis on bâtit notre vie autour de plein de choses sans arrêt. On adore sans arrêt. Des fois, on bâtit notre vie autour de l'argent. Des fois, on bâtit notre vie autour de l'approbation des gens. On va tout faire pour que les gens nous donnent l'approbation. Si on n'a pas ça, notre vie est démolie. Des fois, on bâtit notre vie autour du sexe, de l'alcool, des fois autour de la famille. Puis c'est toutes des choses qui sont très, très bonnes. Des choses qui sont très, très bonnes, mais que ça, Dieu n'a jamais créé ces choses-là dans le but de nous combler, dans le but de nous donner la vie. Ces choses-là ne nous donnent pas la vie, ces choses-là ne nous donnent pas la lumière, ces choses-là ne nous comblent jamais au complet. Puis nous, on poursuit ça. On a un mauvais désir, on a un mauvais cœur qui a des mauvais désirs, puis on essaie de trouver Dieu là où ce que Dieu n'est pas. Puis Dieu dit, vous êtes esclaves de ça, vous êtes enchaînés après ça, puis il n'y a aucun moyen que vous puissiez vous libérer de ça pour marcher vers moi. Puis ce que je suis venu faire ici, c'est que je suis venu rendre ça possible. Je suis venu sur terre pour rendre ça possible. Puis de la même manière que dans l'histoire, dans le désert, le peuple avait le choix, un coup qui était maudit, il avait le choix de regarder le serpent ou non. De la même manière, aujourd'hui, vous avez le choix. De la même manière, aujourd'hui, nous, on a le choix. La malédiction coule dans nos veines. Puis on est en train de mourir, c'est une question de temps. Ce que Dieu nous appelle à faire, dit maintenant, j'ai rendu possible. Dit maintenant, je suis devenu esclave pour que vous soyez plus esclaves. À la fin de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus dans le jardin de Gethsémané. On voit Jésus qui est enchaîné. On voit Jésus qui se fait battre. On voit Jésus qui est forcé de prendre sa croix puis de l'amener pour qu'il se fasse tuer. On voit Jésus qui est devenu un esclave. Jésus est devenu un esclave pour que nous, on ne soit plus les esclaves. Il est venu briser les chaînes de l'esclavage. Donc Jésus dit, j'ai rendu ça possible. Maintenant, c'est possible. Puis vous avez le choix. Nous, aujourd'hui, nous, on a le choix. On a le choix aujourd'hui de choisir de poursuivre ce qui nous tue. On a le choix de se retourner et de dire, non, moi, je choisis de marcher vers Jésus. Vers Jésus qui est la source de tout ce qui est bon. Vers Jésus qui me donne la vie. Vers Jésus qui est la véritable lumière. Vers Jésus qui est vraiment la joie. Parce que moi, je veux être dans le meilleur endroit. Puis le meilleur endroit, c'est là où est-ce que Jésus est. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est pas tout. Il y a plus encore. Parce que Jésus-Christ, il n'est pas resté mort. Parce que la loi nous dit que le Messie vivra éternellement. La Bible nous dit qu'il s'est passé quelque chose. Jésus est mort. Jésus a perdu la vie. Mais il s'est pas resté là. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie. Jésus a vaincu la mort. Puis Jésus est rendu à la droite de Dieu. Jésus est rendu dans le meilleur endroit. Puis le jour où est-ce que Nicodème va arriver devant Dieu, le jour où est-ce que nous, on va arriver devant Dieu, le jour où est-ce que je vais arriver devant Dieu, toute personne qui va avoir choisi de se repentir, c'est de choisir de ne plus poursuivre ce qui est mauvais puis qui me tue, mais de choisir de poursuivre Jésus. Quand on va arriver devant Dieu, l'être supérieur, cette énergie supérieure qui choisit si oui ou non, tu t'en vas dans le bon ou le mauvais endroit, Jésus va être à la droite de Dieu. Puis il va dire, Dieu, Papa, être supérieur. Tu t'en souviens quand j'étais sur la croix? Tu t'en souviens quand j'ai perdu la vie? Tu t'en souviens quand l'Esprit de Dieu m'a quitté, quand ton esprit m'a quitté? Tu t'en souviens quand je me suis fait rejeter, quand tu m'as rejeté de mon propre royaume? Tu t'en souviens quand je suis devenu maudit? Mais c'est pour eux que j'ai fait ça. J'ai fait ça pour eux parce que je les aime. Puis oui, tu peux rentrer bon et fidèle serviteur. Puis Jésus ne veut pas dire bon et fidèle serviteur parce que tu as été assez bon. Mais parce que Jésus a été assez bon, toi non, mais il a changé de place avec toi. Bon et fidèle serviteur, tu peux rentrer. Si c'est votre cas aujourd'hui, si c'est votre cas, que vous avez déjà fait cette décision-là de suivre Jésus, Jésus l'a promis, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. si c'est votre cas, en entendant ces paroles-là, probablement que ça brûle en dedans. Il y a quelque chose en dedans, il y a une joie qui s'installe, ça vibre en dedans, ça veut comme sortir de votre poitrine. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui dit oui. Ça, c'est la vérité qui nous affranchit et nous rend libres. Puis ça, ce qui se passe en ce moment, c'est de l'adoration. Puis ensemble, on va pouvoir faire ça ensemble. On n'a pas besoin de le contenir ensemble. On va pouvoir faire ce qu'on veut, lever nos bras si on veut, pouvoir crier Jésus, parce que Jésus est fou, il est hot. Jésus, c'est la meilleure nouvelle qui est jamais arrivée. On va pouvoir louer ensemble, en famille. Puis si c'est pas votre cas, si c'est pas votre cas, si vous n'avez jamais fait ce choix-là, si vous n'avez jamais décidé d'arrêter de poursuivre vos mauvais désirs puis de poursuivre les bons désirs qui est Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez juste le dire à Dieu. Vous pouvez le dire tout de suite à Dieu. Dieu, si c'est vrai que tu es là, si c'est vrai qu'il y a un être supérieur au-dessus de toute chose, si c'est vrai qu'il y a un meilleur endroit puis qu'il y a un pire endroit, puis si c'est vrai que le meilleur endroit, c'est là où est-ce que toi t'es, puis que tu veux me purifier d'eau pure, que tu veux me donner un nouveau cœur, que tu veux me donner des nouveaux désirs, si c'est vrai que tu veux faire ça parce que tu m'aimes, mais je le veux. Je le veux. Je le veux, c'est tout. Puis si c'est votre cas, si vous avez choisi ça ce matin, je vais prier pour vous tout de suite. Dieu, ta nouvelle, ta bonne nouvelle est jamais vieille. Ta bonne nouvelle, elle vient toujours me chercher. Dieu, je te prie pour toutes ces personnes-là qui ont choisi ça aujourd'hui, toutes les gens qui ont choisi aujourd'hui, qui ne voulaient pas être esclaves de leurs mauvais désirs. Jésus, maintenant, brise leurs chaînes, maintenant. Brise les chaînes du péché, brise les chaînes du mauvais désir, maintenant. Brise les chaînes de la pornographie, brise les chaînes de l'approbation des gens. Brise les chaînes de l'argent, du pouvoir, de la popularité. Brise toutes les chaînes du péché, Dieu. Brise les chaînes de l'addiction. Maintenant, Esprit Saint, je ne demande rien de moins que de descendre maintenant, de les remplir, remplir ces personnes-là qui ont choisi de te suivre. Remplis-les maintenant, Esprit Saint. Révèle le Père maintenant. On te prie pour des yeux nouveaux qui te voient. On te prie pour des oreilles nouvelles qui entendent ta parole. On te prie pour une intelligence nouvelle qui comprend la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de ton amour. On te prie, Dieu, pour ce cœur nouveau que tu promets maintenant. Pour qu'il puisse maintenant chanter avec le reste de la famille comment est-ce que tu es extraordinaire, parce que tu es extraordinaire. Jésus, je te remercie parce que tu n'es pas un concept. Tu n'es pas un concept. Puis on veut adorer le seul et unique vrai Dieu. On ne veut pas adorer le concept de Jésus. Remplis cette salle maintenant comme qu'elle n'a jamais été remplie. Dieu, on t'aime vraiment beaucoup.